Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Ce que fait le thé ». Je suis Sabine Minsen. J'utilise le thé et l'écriture pour aider à rester ancré sur sa propre voie. Je vais à la rencontre des héros modernes avec une tasse de thé à la main pour qu'ils puissent nous transmettre leur clé de la notion du service à autrui, pour qu'ils nous inspirent et qu'ils nous fassent faire de belles choses dans notre quotidien. Aujourd'hui, à ma table de thé, je suis extrêmement honorée d'accueillir l'épidémiologiste Renaud Piaroux ainsi que sa femme Martine, médecin elle aussi. Renaud est le spécialiste mondialement reconnu de la gestion des épidémies. Au moment de cette interview, M. Piaroux venait tout juste de déposer ses notes à l'Élysée pour la gestion de la Covid. C'était en avril 2021. René Piaroux incarne à merveille le héros des temps modernes. Pédiatre et biologiste, il a une double formation. Spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales, professeur à la Sorbonne. Chef de service de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Il a joué un rôle déterminant dans la lutte contre l'épidémie de choléra en 2010 en Haïti. Avant d'aller à la rencontre de M. Piaroux, j'avais cette image de lui, le zodiaque de Greenpeace face au baleinier géant. Ce rapport de force David contre Goliath, cette image était indélébile. Vous allez voir, Renaud est très précis sur les mots qu'il emploie et ses actes vont parler pour lui. Si je me trompe, vous pouvez m'arrêter et me rectifier. C'est à partir de votre expérience que vous avez eue en Haïti, vous avez alerté ce problème de santé publique où l'épidémie de choléra, on a mal défini l'origine, on va dire ça comme ça diplomatiquement.
Oui, elle a été cachée. Enfin, l'idée était que personne ne sache d'où venait cette épidémie.
Voilà, donc ça s'est passé en 2010. Vous ne pouviez pas laisser passer ce travestissement de la vérité, c'est ça ?
C'est pas que le travestissement de la vérité, c'était d'abord connaître l'origine de l'épidémie, c'est trouver un moyen pour l'éliminer. Sinon, si on dit que c'est la fatalité, c'est l'environnement, on ne va pas y arriver. Sinon, effectivement... indiquer, puis c'est juste une question de justice, de mensonge. Quand on ment aux gens pendant une épidémie, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent les choses correctement. Lutter contre une épidémie, ça se passe au niveau de la population. En fait, on peut toujours donner toutes les consignes qu'on veut, c'est la population qui les applique ou ne les applique pas. Alors, bon, il y a des pays plus rigides qui vont obtenir une application, mais qui sont organisés pour ça. Haïti, la France aussi d'ailleurs, ne sont pas des pays organisés pour une lutte communautaire. Donc, il faut travailler sur la confiance. Et la confiance ne peut pas être là quand on raconte des histoires à la population.
Ce qui m'intéresse, c'est votre aventure humaine. En fait, vous vous opposez d'une certaine manière à tout ce qui est institutionnel, à l'ONU et toutes ces grandes instances qui font autorité.
Non.
Ça ne s'est pas passé comme ça.
Je ne m'oppose pas aux institutions pour m'opposer aux institutions.
Non, bien sûr.
D'ailleurs, dans la lutte contre le choléra en Haïti, j'ai travaillé avec l'ONU.
D'accord.
Puisque, alors, l'ONU, il y a plusieurs agences, etc. Et c'est avec l'UNICEF. L'UNICEF, ça commence par UN, c'est les Nations Unies. Et c'est avec l'UNICEF qu'on a, j'ai proposé à l'UNICEF une approche différente de celle qui est proposée par beaucoup d'autres, enfin la plupart des autres personnes. C'est vraiment original et en même temps c'est basique, une approche pour lutter contre l'épidémie. Et on a pu la mettre en œuvre. Et quand on a eu les moyens de la passer vraiment à l'échelle, ça a marché.
De qui est venue l'idée de mettre au jour, en fait, tout ce qui se passait ?
Normalement, c'est normal de le faire. Quand il y a une épidémie, ça fait partie. Avant de partir, c'est drôle parce qu'avant de partir en Haïti, l'épidémie avait commencé, mais j'étais coincé à Marseille à l'époque, en particulier parce que j'avais une semaine de cours avec le service de santé des armées sur justement les urgences, la gestion des épidémies, etc. Et on enseigne, on a enseigné, j'ai gardé ce cours. Donc j'étais pas encore parti là-bas, on enseigne l'investigation d'une épidémie. Comme en fait, l'investigation d'une épidémie, c'est l'examen, l'interrogatoire dans la prise en charge d'un malade. C'est pour la population la même chose que l'examen, l'interrogatoire dans la prise en charge d'un malade, et même les examens cliniques. C'est la phase diagnostique. Donc se passer d'une phase diagnostique, c'est prendre le risque de ne pas comprendre comment fonctionne l'épidémie et donc de ne pas savoir lutter contre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant des années, on n'a pas su lutter contre parce qu'on ne voulait pas comprendre comment l'épidémie fonctionnait.
Quel était votre état d'esprit alors à l'époque?
Prudent. Quand même une certaine forme de prudence, comme maintenant encore. Il s'est passé une drôle de chose. C'est que, bon, je connaissais déjà pas mal de gens dans le monde humanitaire, etc. Et en particulier, un ancien de Médecins Sans Frontières, quand même une pointure de Médecins Sans Frontières, qui s'appelle Ronnie Broman. Et donc, j'entretenais une correspondance avec lui, puisque je dis, je vais en Haïti, on va discuter. Et Ronnie Broman a répondu à une interview dans le journal Le Monde à la mi-novembre, expliquant que c'était l'environnement, etc. Il parlait de. Et donc je lui écris, je dis, Ronnie, tu sais, en fait, je suis en train de faire l'investigation, c'est pas du tout ça, c'est les Népalais. Et il me répond, oui, j'ai lu ton. Je viens de lire ton rapport, et si j'avais su ça, je n'aurais pas répondu comme ça. C'est quelqu'un
Qui est posé.
qui est posé, qui a une agilité intellectuelle, il est capable de se dire qu'il s'est trompé. Sauf que je n'avais pas écrit mon rapport. C'était en fait, à ce moment-là, au ministère des Affaires étrangères, on a eu un changement de ministre. On est passé de Kouchner à Michel Alliot-Marie. Et que c'est comme des tuyaux, quand les jointures sont pas bien faites, ça fuit. Et il y a eu des fuites, et c'était en fait un rapport de l'ambassade qui décrivait mon investigation et qui concluait que, alors avec très bien détaillé, bien précis, etc., et qui concluait que, bon, pour des raisons politiques, on allait continuer à dire que.
Et donc lui, sa position, ça a été quoi?
Et donc lui, il avait récupéré ce rapport. Donc à mon retour en France, j'ai écrit mon rapport juste le jour du retour, je suis débarqué de l'avion et j'ai écrit le rapport avant d'aller me coucher, quoi, en quelque sorte. Et puis, on était à Marseille. Donc le mardi, je suis venu à Paris. Le matin, j'ai rencontré l'équipe de Médecins Sans Frontières. On a discuté ensemble et on a décidé que cette histoire devait être connue, à cause de la confiance, la lutte contre les épidémies, le danger de dire, les dangers de ne pas dire. Et c'est un peu comme dans maintenant, en médecine, il y a des décisions qu'on ne prend pas seul. C'est ce qu'on appelle les RCP,
Oui, en particulier
les décisions, par exemple, d'interrompre les soins, ou les études sur quand il y a eu un problème ou des choses comme ça. Donc on essaye de faire ça collectivement. Et là, j'ai éprouvé le besoin d'être avec un collectif. Et donc, en fait, il y avait Ronnie Broman, il y avait Jean-Hervé Bradol, qui était un ancien aussi président de MSF, il y avait Thierry Durand, qui était le directeur des missions, il y avait Marie-Pierre Allier, et on a discuté dans un café de ce qui s'était passé, de ce qui se passait en Haïti, et voilà, ensemble on a décidé que ce serait dit. Alors, je suis un peu prudent, effectivement, J'étais tout seul. Et pendant quelques semaines, il y a eu quand même des moments de grande solitude.
Oui.
C'est jusqu'au 12 janvier, personne en Haïti n'est allé dans mon sens. Et de début décembre à 12 janvier, ça paraît court, mais c'est quand même long. Et donc, on a convenu que MSF communiquerait sur ça.
Donc, vous avez trouvé des alliés.
Parce que même le monde humanitaire était persuadé que... Parce que la supercherie était, enfin, avait marché, quoi. Enfin, la désinformation avait parfaitement marché. Les gens, même en Haïti, pas les Haïtiens. Les Haïtiens, ils savaient, mais ils se taisaient. Ils n'avaient pas le droit de parler. Mais y compris jusqu'au président de la République d'Haïti.
Ah bon ?
Oui, le président de la République d'Haïti. Je le rencontre vers la mi-novembre. Ma mission devait durer 10 jours. Je lui rends compte de ce que j'ai vu. Et il me prolonge ma mission d'une dizaine de jours de plus. Enfin, il demande à l'ambassade de prolonger. Donc, c'est bien ça qu'il voulait. C'est, il voulait savoir, enfin, il voulait que je puisse continuer à étayer. À la fois, j'étais porte-parole, mais aussi je construis l'information. L'information scientifique, ça se construit.
Mais moi, c'est j'aimerais savoir moralement, en fait, parce qu'on ne va pas la refaire, peut-être que j'écrirai quelque chose ou je reprendrai. Donc, cette histoire-là, maintenant, je pense que vous avez eu l'occasion de bien la raconter.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Donc,
et oui, c'est important. Il y avait deux choses qui me paraissaient importantes et que je porte depuis 10 ans. C'est le fait que le choléra soit éliminé, qu'on y arrive. Donc, ça a été gagné il y a 2 ans. Et la deuxième chose, que l'histoire soit connue. Parce qu'elle elle dérange. Et bien sûr qu'il y a eu des articles, bien sûr qu'il y a eu... J'ai l'occasion d'en parler à droite à gauche. Mais cette interview, là, me donne l'occasion d'en parler à des centaines de milliers de personnes. Et ça... c'est complètement incroyable quand on y réfléchit. Imaginez que de faire une conférence de 2 heures avec des diapositives sur une controverse scientifique à propos de l'origine d'une épidémie de choléra qui s'est passée à l'autre bout du monde il y a 10 ans puisse avoir un auditoire.
C'est pas si attendu?
Ah non, c'est juste...
Mais en fait, c'est en quoi ça nous passionne, c'est parce que c'est la manipulation de l'information. Et en ce moment, on est tellement dans le doute, c'est ça où c'est intéressant.
L'occasion est bonne, c'est sûr. Le média est le bon. C'est le bon parce que ces histoires-là, je ne sais pas les rencontrer en 5 minutes. Mm-hmm. Et passer à une télé et dire un truc. Mais ça n'intéresse personne. Quand on le dit en 5 minutes, ça n'intéresse personne. Quand on le dit en 2 heures... Ça captive.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce que vous avez vécu. Donc, c'est le grand moment de solitude, de un. Et de deux, c'est de vous entourer pour pas être un tout seul, surtout être étouffé. Non.
Oui, c'est ça. Je me souviens du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui commence à dire, et là, il a eu tort, qui commence à dire que j'y suis allé, enfin, ce que j'ai mis dans mon rapport ne... Voilà, n'implique que moi, c'est sous ma propre responsabilité. Ce qui est quand même assez dégueulasse quand c'est le ministère des Affaires étrangères qui m'a demandé d'y aller. Et que j'ai rendu compte, et eux-mêmes l'ont fait, à l'ambassade, jour après jour, de l'avancée de mon enquête. Donc, alors c'est pas qu'une enquête, hein, c'est aussi organiser la collecte d'informations, enfin de manière à pouvoir gérer l'épidémie derrière. Bon, c'est vrai que j'ai quand même un recul vis-à-vis des politiques. Ce ne sont pas des gens que nous... Il y en a forcément qui sont bien, mais on ne saurait pas les citer. De temps en temps, quand même, pour le coup, c'est bien de leur donner un petit coup de patte sur le...
En fait, comment dire, vous œuvrez pour le bien commun.
On espère.
Pour l'humanité. Non, mais en tout cas, vous avez apporté votre pierre. Est-ce que ce qui vous est arrivé en Haïti et qui maintenant est derrière vous, c'est-à-dire que c'est conclu, c'est vrai ? C'est conclu, c'est... Oui, ou pas ?
Peut-être que ça va être conclu pour moi, peut-être maintenant là, Alors déjà, on a repris un autre combat contre les épidémies en République démocratique du Congo, avec la même équipe. Mon premier contact avec le choléra, c'était à Goma, c'était en 1994, c'était après le génocide rwandais. C'était dans les camps de réfugiés autour de Goma. Et je suis allé comme pédiatre pour Médecins du Monde et j'étais face à cette épidémie. Alors il y avait plein de choses, hein, camps de réfugiés, choléra, shigellose, et tout, enfin plein de maladies. Et petit à petit, quand même, j'ai essayé de travailler parce que le choléra s'est implanté dans cette zone des grands lacs. On est face à... on pourrait s'en débarrasser le jour où on changera la manière de voir, exactement comme en Haïti. Ouais. Et donc là, on est en train de travailler là-dessus. Mais on est très gêné par, en fait, au minimum de choses, une vision du choléra environnemental qui est fausse, mais c'est très difficile de faire passer. C'est faux, sinon il y aurait toujours du choléra en Haïti.
Oui, la preuve. En Amérique latine aussi.
Oui, la preuve, mais on n'a toujours pas réussi à publier un article qu'on veut publier disant qu'il n'y a plus de choléra en Haïti.
Ça, vous n'arrivez pas.
Non.
Ça traîne au niveau des reviewers, on ne sait pas. C'est pas ce qui se passe. L'article a été refusé. J'ai écrit au rédacteur en chef. J'ai dit, je ne comprends pas. Il m'a proposé de faire appel. On peut faire appel sur un refus d'article, mais c'est compliqué. En appel, parce qu'ils n'avaient même pas envoyé aux reviewers. En appel, bon, ils ont dit, mais non, c'est OK, il faut envoyer. Les reviewers ont dit, il y a un certain nombre de choses à faire. Bon, certains demandaient des choses impossibles, mais bon, on fait ces choses, et là, ça fait 4 mois, on attend la réponse. Il y a juste de vérifier si on avait... Et en soi-disant, ils ont du mal à... voilà, enfin, je pense qu'il y a des reviewers qui doivent faire exprès, faire traîner. Et donc, normalement, on peut chacun être le reviewer d'un autre, etc. Mais toute la communauté scientifique du choléra a été construite autour de cette histoire environnementale. Et la deuxième chose, elle est pratiquement aussi en totalité financée par la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc, si on propose, on dit qu'on peut se débarrasser d'un truc où il était censé être dans l'environnement, qu'on l'a fait pratiquement sans vaccin, ça passe pas.
Est-ce qu'on peut dire que ce que vous avez vécu en Haïti, c'est un succès, hein, on va dire, un succès humain. Est-ce que ce succès-là, c'est ce que vous essayez de répliquer maintenant que vous y êtes arrivé au fond de vous?
C'est pas ça la démarche.
Pas comme ça.
La démarche... Bon, c'est assez rapidement quand même centré dans les épidémies, plutôt sur le choléra. Mais c'est quand même l'aide aux populations qui sont victimes d'épidémies. C'était généralement les plus pauvres. C'est lié à plein d'autres choses. Et donc c'est un travail sur les épidémies. Et pourquoi le choléra? Parce que un des déterminants essentiels des épidémies de choléra, c'est la désinformation. En particulier, cette théorie environnementale a été construite par une scientifique et son groupe, et qui a pris le dessus parce que c'est les États-Unis, parce qu'ils ont de l'argent, etc. Mais elle est construite sur les manipulations. Je vais laisser Martine en parler pour bien voir que c'est tous les deux.
Mon vibrio choléré désigne des choses très très différentes, des microbes très différents, comme certains donnent le choléra, d'autres non. Il y en a partout, des vibrio cholérés, il y en a dans la Loire, il y en a partout dans le monde, mais tous ne donnent pas le choléra. Et il y a un amalgame dans les articles scientifiques entre les vibrio cholérés qui donnent le choléra et ceux qui ne donnent pas le choléra. Donc déjà, la première chose qui met la panique, qui brouille toute l'information, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait des études sur le vibrio choléré qui ne donne pas le choléra, et on dit, c'est pareil pour le choléra. Et donc, Rita Colwell, elle a fait un article dans Science qui était l'article qui disait, voilà, le choléra est environnemental, c'est ma grande découverte.
Ça pose le paradigme,
voilà,
du choléra.
Elle avait intitulé le choléra comme un paradigme de maladie environnementale.
Ah, d'accord.
Et l'exemple type de la maladie environnementale, l'exemple le plus frappant de la maladie environnementale, c'est le choléra pour elle. Et en fait, cet article, c'est un article qui n'a pas été reviewé par des reviewers parce que c'est un article associatif.
Elle a montré, elle l'a construit comme un article scientifique. Il faut dire qu'elle était, je ne sais pas si elle n'était pas présidente de l'Académie des sciences à ce moment-là.
À ce moment-là, quelque chose comme ça. Ou vice-présidente,
de la fondation
ou...
De l'Académie
enfin bref,
des sciences.
Elle était quelque chose comme ça.
Et dedans, on voit qu'on va trouver des manipulations sur la chronologie d'événements, en particulier de l'épidémie en Amérique latine. Il y a eu une année El Niño, 91-92. Mais le choléra a commencé largement plusieurs mois avant l'épisode El Niño, mais elle fait comme si ça avait commencé par l'épisode El Niño, donc épisode en Amérique latine, sur la côte péruvienne. Il y a un courant marin qui est vers Noël, c'est pour ça que ça s'appelle El Niño, qui peut s'inverser. Quand il s'inverse, normalement il va du sud vers le nord, du froid vers le chaud, donc c'est un courant d'air froid. D'eau froide. L'eau étant froide, l'air étant relativement chaud, il y a peu d'évaporation, et on a des déserts dans ces endroits-là. Il y a un désert, la Katama, ou je ne sais plus...
Takama.
Takama, oui, peut-être. voilà. Donc, c'est une zone qui est relativement désertique, et enfin, cette côte-là, quand on va vers le nord, il y a très peu de pluie. Certaines années, le courant s'inverse, et c'est donc sont les eaux chaudes qui descendent. Et si les eaux chaudes descendent, là, il pleut beaucoup. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Dans sa partie la plus caractéristique, parce qu'il y a plein de choses qui se passent partout sur la planète à ce moment-là. Et elle a voulu associer le choléra, travailler sur le choléra au Bangladesh. Elle voyait une association avec les moussons, ce qui n'est pas un scoop, parce que c'est une maladie liée à des germes digestifs. De ce fait que si, les jours où il pleut, dans des endroits où il n'y a pas de toilettes, les eaux sont contaminées. Donc, c'est pas un scoop. Et ça lui a permis de construire sa théorie sur le fait que c'est El Niño qui...
J'ai regardé son... Après 2010, chaque année où, je ne sais pas, plein de prix. C'est-à-dire le fait que vous aviez démystifié son paradigme...
Mais non, mais son paradigme...
Ça n'empêche pas.
Mais son paradigme n'est pas détruit. Actuellement, il y a des équipes de l'Université de Floride qui sont toujours en train de chercher le vibrio dans l'environnement. Ils y croient. La communauté scientifique est partie dans une impasse. Il y a ce qu'on appelait... C'est un biais cognitif, c'est le biais de confirmation. Tout ce qui se passe vient confirmer ce truc-là. Et à ça s'ajoute évidemment tout ce qui se passe autour de la vaccination, avec pareil des biais de confirmation énormes.
Donc en fait, ce que vous avez voulu démontrer justement, comment ça a fonctionné, comment on en est arrivé...
C'est un épiphénomène de quelque chose de plus large qui touche la recherche dans plein de domaines et dans le choléra, permet au choléra de perdurer.
Non, mais c'est complètement fou les conséquences.
Mais oui.
C'est-à-dire, comme vous avez dit, il y a des morts.
Oui, oui.
Et puis pas deux ou trois par accident.
Non, non, mais c'est exactement les trucs. Donc c'est un combat qui est sur beaucoup plus longue durée. D'autres le continueront parce que je pense que Stan, Sam, Greg sont plus jeunes que moi. Ils vont continuer. Et c'est à la fois un combat sur le terrain contre le choléra et un combat scientifique contre la désinformation.
Est-ce que quand vous vous rendez sur une zone épidémique, on dit, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous connaissez les protections? Est-ce qu'elles sont 100% sûres?
Le danger n'est pas à l'épidémie elle-même.
Non.
Le danger est à la zone. Ce sont des endroits risqué. J'ai déjà été braqué.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est oui, non, c'est pas les transports qu'on prend sont extrêmement dangereux. Prendre des compagnies blacklistées, enfin c'est pas un
C'est toute une
truc.
aventure, oui, c'est. Ouais. Oui, et c'est pour ça aussi que maintenant vous trouvez des relais ou des
Ah
ceux
non,
qui
mais
vous a...
il faut aller aussi.
Il faut y aller
Il
aussi.
faut y aller aussi.
Ouais. Pour des preuves et aussi pour ressentir les
Non,
deux.
pour organiser la lutte, pour défendre, pour. C'est non seulement organiser la lutte, mais ça se passe dans des réunions aussi, dans des ateliers ou face à des décideurs, de leur faire comprendre que, y a un moyen de faire, parce que les gens ne pensent que c'est pas possible.
Est-ce que vous sentez que quand vous allez justement pour organiser cette lutte, quand vous allez là-bas sur place, est-ce que vous gagnez du terrain?
Oui.
À quoi c'est dû ça?
Ah ben c'est dû enfin, au fait que j'ai une telle expérience et une telle autorité scientifique dans ce domaine-là, que lorsque je peux être en face des personnes, je peux leur expliquer. Et à ce moment-là, on peut gagner du terrain, effectivement, convaincre, alors qui, ben, les politiques de ces pays. Et les bailleurs de fonds. Et c'est à ça que je suis employé, moi, maintenant. C'est-à-dire que dans
Qui vous
l'équipe,
emploie d'ailleurs
ben
quand vous partez?
c'est l'UNICEF qui. Alors, on le fait sous la forme d'une convention avec les hôpitaux, c'est-à-dire où j'ai travaillé. C'est-à-dire que l'UNICEF va payer à l'hôpital tant de jours de
Votre...
mon travail.
Ah voilà, c'est comme ça.
Et je viens donc. Je suis toujours employé de l'hôpital, mais prêté pour telle ou telle activité, faire le point de la lutte sur le terrain, en fait, guider la lutte contre le choléra.
Alors, ok, il y a le danger que les régions où vous êtes allé sont instables. Mais est-ce que
Ça va avec.
oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes senti, par exemple, menacé?
J'ai posé, enfin, je me suis demandé s'il y avait une menace. Par exemple, j'ai posé la question à l'ambassade de France quand je faisais l'investigation de l'épidémie. Est-ce qu'il y a un danger
Ah
à le
oui,
faire?
directement, vous avez... Ben oui. On vous a répondu
Paradoxe,
non?
on m'a répondu non, ça va, tu peux y aller. Paradoxalement, je prends des risques, mais je suis prudent. C'est difficile.
Non, je...
C'est justement pour pouvoir. Vivre longtemps dans ce métier, je pense qu'il
Carrément.
faut quand même regarder où on met les pieds. C'est pas si simple que ça. Donc il y a cet aspect-là. Je peux tomber malade et je suis tombé malade. Et c'est pas facile non plus d'être malade dans des pays pourris. Donc
Mais malade de...
colite néphrétique par
Ah
exemple.
oui.
Et ça dans un truc où on peut pas sortir soi-même. Bon, il y a eu une période un peu difficile là. C'était à Kinshasa, il y a une mission où j'ai été braqué un jour et le lendemain j'avais des coliques néphrétiques.
Oui.
Et le lien, c'est que ben, dans ces cas-là, on ne peut pas sortir aller chercher de l'eau. Si je ne bois pas d'eau, je suis en déshydratation chronique. Et en déshydratation chronique, on peut faire des calculs. Donc tout ça est pas. Et pas si simple. Donc la première chose, c'est d'avoir la possibilité de partir et de revenir et d'être accueilli, d'être pas consolé, mais reconstruit, parce que certains voyages m'ont détruit.
Moralement ou physiquement aussi?
Les deux.
Moralement. Les deux.
Goma,
c'était difficile.
Le retour de Goma était très difficile.
Presque
Très, très
plus
difficile.
qu'Haïti.
Oui.
Oui. Goma, c'est
C'est
toujours
pas passé.
difficile. Non. C'est
C'était
pas passé.
l'enfer.
Ça
C'était
passe
l'enfer.
pas. Ça passe pas. Ça passera jamais. Ça passera jamais. On peut pas imaginer ce que c'est un camp de réfugiés, ce que c'est de s'occuper d'orphelins dans un camp de réfugiés pendant la guerre. Des gosses qui ont toute leur famille qui a été tuée ou... et qui ont le choléra
Et
et
qui
qui
tombent
meurent
comme
comme des
des mouches, oui.
mouches tous les matins. Il y en a un, deux, trois qui sont
Qu'on
morts.
ramasse comme les poubelles. C'était les. D'ailleurs, aussi, ont été traumatisés. Mais c'était les légionnaires français qui tous les matins, allaient ramasser les cadavres. Et ils étaient mis sur le bord de la route, comme on pose des poubelles sur le bord de la route.
Est-ce que ça prend naissance, ce courage, dans le fait d'être allé sur le terrain et de ne plus supporter ces horreurs?
Et il y a un autre point pour le fait qu'on est très peu nombreux. Vraiment,
c'est un petit groupe. Oui.
C'est un petit groupe et on n'a pas trouvé d'autres petits groupes pareils. On est très peu nombreux.
Après, il y a des ONG, il y a plein
oui,
de gens
mais c'est
qui
pas,
font,
non, c'est pas
font des choses, mais
c'est pas pareil. Une des caractéristiques aussi, quand même, c'est qu'on a tous eu une démarche d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre sur des années.
Tout le monde se donne les moyens d'avoir une réponse.
Oui, c'est ça. Et c'est, autrement dit, une ressemblance avec les samouraïs, c'est aussi, ils maîtrisent. Ils maîtrisent... l'art du combat, mais là, c'est un art martial. Ben, la lutte contre les épidémies pourrait être un art martial.
Ah, c'est vraiment très joli. Hein. Il y a quelque chose enfin, très joli, vous voyez ce que je veux dire? En l'exprimant, on voit bien qu'il y a bien un sujet d'écriture là-dessus à approfondir.
Après, c'est une vie. C'est une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue.
J'aimerais qu'on arrive à dire qu'est-ce qui fait dans votre enfance qui vous a donné ce courage d'être ce que vous êtes.
Non, 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 je pense que ce n'est pas une histoire d'enfance.
Non.
C'est une histoire d'avoir commencé, d'avoir pu commencer. J'aurais très bien pu, et Martine aussi, finalement, aller sur une vie plus sédentaire.
Admettons que je n'écoute aucune information et que je ne sache rien sur le Covid, que juste il faut mettre un masque petit à petit, on va essayer de démêler avec vous parce que je sais que vous vous appuyez à chaque fois sur des preuves scientifiques. Vous n'affirmez rien que vous n'ayez pu vérifier par vous-même. Vous ne lancez jamais quelque chose au hasard, me semble-t-il.
Oui, parce que ma force, c'est ma crédibilité. Si je commence à dire n'importe quoi, je perds en crédibilité. Si je perds en crédibilité, je perds ma force.
Oui.
J'ai pas d'argent, j'ai pas de pouvoir politique, j'ai pas de... Par contre, si je suis face à quelqu'un, que je lui dis quelque chose, il y a des chances que la personne le comprenne et fasse confiance à ce que je dis. Donc, je dois donc continuer à entretenir cette force.
Cette rigueur.
Et ça nécessite effectivement la crédibilité, sinon seulement... s'interdire de déformer, ça c'est clair. Mais sans même déformer, on peut simplement se faire piéger par une information, si on ne l'a pas vérifiée, si on ne l'a pas croisée, etc. Donc c'est un peu un travail de journaliste, mais puissance X.
En fait, moi je pense que ça demande une attention constante et permanente de conserver sa droiture. Vous, ça vous donne après un poids quand les circonstances sont plus difficiles que de parler à un journaliste.
Mais je n'ai pas d'autre poids, donc il faut au moins
au moins celui-là. Oui, ouais, tout à fait. Alors, quel est votre quotidien par rapport au Covid, en fait?
J'ai appliqué au Covid, finalement, le quotidien des épidémies de choléra. On l'a appliqué tous les deux. C'est toujours la même histoire, finalement. On a d'abord... on voit bien, on vit l'épidémie, on voit qu'elle n'est pas prise en charge de manière optimale. C'est triste parce qu'on sait qu'on aurait les moyens de faire beaucoup mieux, en n'emmerdant pas plus les gens. Hein, on aurait les moyens de faire beaucoup mieux. Le travail, là, consiste à voir l'évolution de l'épidémie, bien sûr, regarder ça, c'est le point important. Et ensuite... essayer de faire passer des messages. On y arrive, on n'y arrive pas, on recommence.
Qu'est-ce que vous arrivez à amener d'Haïti dans la crise du Covid?
C'est pas d'Haïti, mais de enfin, cette expérience des épidémies très, très largement.
Oui.
Un point très précis, les pays qui s'en sortent contre la Covid, c'est des pays qui savent faire la lutte avec la population. D'une manière ou d'une autre.
Vous avez des exemples? Par exemple, le Vietnam, je crois qu'il y a très peu de morts.
Le Vietnam.
Je dis ça parce que je suis d'origine vietnamienne.
Oui, oui. Le Vietnam, effectivement, s'en sort très, très bien. Alors, je ne connais pas le détail, mais s'en sort très, très bien. La Corée, évidemment, on connaît mieux leur histoire.
Oui.
La Chine,
Taïwan.
la Chine aussi, d'une certaine manière,
Oui,
c'est pas une apologie du régime chinois, mais c'est de se dire que dans cette histoire-là, ce qui compte, c'est que la population applique un certain nombre de règles et s'implique dans la lutte contre l'épidémie. Et ça peut être par la contrainte, ça peut être par l'adhésion. Mais en la manière dont c'est géré en Europe, il y a à la fois de la contrainte et une mauvaise adhésion. Enfin, c'est finalement très, très mal géré en termes de communication. Le fait d'avoir un gouvernement qui dit qu'il a toujours raison quand on voit manifestement qu'il s'est planté. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de lutte contre les épidémies. Il faut, à un moment, il faut admettre que ben là, on n'a pas fait comme il fallait. Et voilà, cette espèce d'orgueil qu'ont les politiques globalement, pour toujours penser qu'il faut qu'ils disent qu'ils ne se trompent jamais, est calamiteux parce que les gens n'y croient plus. Il y a des choses à faire, effectivement, un peu de manière provocatrice, mais c'est une réalité. Il y a un an de ça, c'est pile un an de ça, on avait ici j'avais fait venir un ami, on était en plein confinement, l'histoire de faire du contact tracing, d'accompagner les malades, ça n'existait pas. Je lui ai passé un coup de fil, il était à Nancy, je savais c'est un ancien directeur pays en Haïti de Solidarité Internationale, pas médecin du tout, rien du tout. J'ai dit, est-ce que tu peux venir? Je viens d'avoir l'accord de Martin Hirsch pour qu'on démarre une mission
Expérience.
comme une mission humanitaire dans le cadre même de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour accompagner les malades, pour les aider quand ils rentrent chez eux, pour leur donner des masques, des gels hydroalcooliques parce qu'ils n'avaient pas droit à ça. Il est venu, voilà, c'est le genre de choses. J'appelle, il en parle
Bien.
à sa famille. Le lendemain, il était à la gare, il est resté 15 jours ici, il a mis le truc en place. Parce que je ne pouvais pas être tout le temps sur la mission, et il a fait son boulot de chef de mission. On a abordé la Covid comme une épidémie dans un pays qui pouvait être le nôtre ou pas le nôtre, mais comme une épidémie où il fallait impliquer la population et impliquer non pas pour leur dire respecter les gestes barrières, mais impliquer pour qu'ils eux-mêmes travaillent contre le virus.
Et le parallèle entre la France et le Brésil?
Ça, c'est un parallèle, mais dans une autre strate, qui est la strate politique, la strate du chef de l'État. Les deux visent le même objectif d'une immunité collective et de laisser courir la maladie.
Ah oui, d'accord, c'est un calcul?
Tout cas, c'est un choix.
Personne ne sait ça?
Il suffit de le regarder. Enfin, c'est-à-dire, ça s'observe que il n'y a pas de volonté de faire baisser le nombre de cas, sauf quand
Ah,
ça,
d'accord.
ça atteint des limites insupportables.
Et ça, vous en pensez quoi?
Que c'est une erreur.
Ah, c'est une erreur. Qu'est-ce que vous auriez fait?
De maintenir l'épidémie de la manière dont a procédé le Vietnam, la Corée, l'Australie, c'est-à-dire, quand il y a eu
Basse.
la première vague, bon, on ne pouvait pas, mais c'est redescendu très bas. On devait le maintenir très bas. On aurait eu moins d'efforts à
Ah
faire
oui, à remonter.
à maintenir le virus très bas, la transmission très basse. Ça sous-entend quand même de la quarantaine à l'entrée, mais finalement, qu'est-ce qui se passe actuellement? On veut aller en Angleterre, il faut qu'on aille dans un hôtel et qu'on paye l'hôtel. Bon, quelqu'un rentre en France, il faut demander ça.
Tout le
Ça,
monde rentre.
c'était l'été dernier, maintenant c'est trop tard. On est avec le Brésil, effectivement, des pays qui sont des incubateurs de nouveaux variants. Donc,
Parce qu'on a laissé rentrer tout le monde, c'est ça?
non, parce que
Parce
maintenant,
qu'on
le
a
niveau
beaucoup
de
de cas,
transmission est élevé,
et
donc
donc il y a
ça
peu
donne plus d'opportunités au virus.
Oui, mais est-ce que c'est il y a beaucoup d'opportunités? C'est parce qu'on a laissé rentrer tout le monde? Est-ce que
Non,
c'est
c'est
ça?
parce que. Non,
C'est parce qu'il y a beaucoup de Covid qu'on l'a
on l'a laissé
laissé
repartir.
courir dans la
C'est parce que
population.
l'été dernier, au lieu
Ah
de fermer les
oui.
bars
Ah oui.
où les personnes faisaient la fête une partie de la nuit, on a dit, bon non, laissons-les ce truc, puis le tourisme, et puis c'est. Voilà, pour assurer le revenu à quelques centaines ou quelques milliers de personnes pendant l'été, on s'est organisé l'hiver qu'on a eu.
Et maintenant, on en est à quel point?
Tout le monde le sait dans quel point on est. Les hôpitaux sont surchargés de malades et on attend, en croisant les doigts, que la vaccination et le printemps nous sortent de cette situation.
Oui, je parlais au niveau d'action, réponse à la situation. C'est le vaccin. Ça.
C'est le vaccin, donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire évidemment. Non mais et c'est les hôpitaux qui souffrent. Un hôpital qui souffre, c'est grave, hein, c'est pas quelque chose de.
Ça a beaucoup de conséquences.
C'est d'abord, c'est la clé de voûte du système de santé. Et la clé de voûte du système de santé, à l'hôpital, ça va être les réanimations. C'est-à-dire que la prise en charge des malades se fait d'autant mieux que si ça grave, on peut continuer à les prendre en charge. C'est pour les Covid, mais pour les autres aussi. Pas de, un hôpital qui souffre, c'est des greffes de reins qui ne se font pas.
Ouais, je
C'est
comprends.
des cataractes qui ne sont pas opérées. C'est tout ce système-là, tout le système de solidarité, la vie qu'on a où on se dit, bon, si je suis malade, on va me soigner. Donc ça, c'est la première chose. Donc on voit des morts, mais ce n'est pas que ça. C'est des retards de diagnostic, des handicaps qui se multiplient, etc.
Vous êtes confronté à ça dans votre quotidien, c'est ça, à l'hôpital?
Moi non, parce que mon
Oui.
rôle à l'hôpital, c'est pas de soigner actuellement. C'est
Non.
à la fois
C'est
de faire du
d'étudier.
diagnostic et puis de m'occuper de l'épidémie, d'expliquer où on va aller. Mais effectivement, c'est le quotidien des équipes soignantes. Et puis l'hôpital qui souffre, c'est aussi du personnel qui est en burn-out, qui est épuisé et à qui on demande toujours plus. Alors je sais pas ce qui va se passer. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de partir.
De l'hôpital.
Oui.
Donc on est.
C'est
Ah bah
ça,
ça.
c'est des choses que je dois vérifier un peu plus,
Oui.
mais je l'ai entendu à propos des infirmiers. Il y a quand même beaucoup de départs parce que avec des reportages, etc. Mais il y avait des données chiffrées qu'il faut qu'on regarde de plus près.
Alors moi je trouve qu'il y a deux choses dans ce qu'on dit si on essaye de sortir de la crise. En fait, c'est comme si on payait les conséquences. Un, de la politique, on a beaucoup enlevé de budget aux hôpitaux. Et tous ces métiers ultra utiles qui ne sont pas du tout valorisés et qu'on n'a pas écoutés pendant des années, ils sont épuisés.
Oui,
On ne les écoute pas
mais il y en
trop. Bon,
a
toujours pas. Hein. Ouais.
encore, on fait un peu attention aux soignants. Il y a plein d'autres métiers ultra utiles où il y a un sentiment d'abandon terrible.
En fait, d'avoir votre témoignage en tant que médecin sur place à l'hôpital, assez haut placé pour être au courant de l'information qui circule, on enlève un peu des rumeurs qui ne nous servent à rien, hein, qui ne servent
Oui.
qu'à alimenter. Après, en revanche, qu'on soit conscient du monde, comment il marche, par qui il est financé et qu'est-ce qui tire les ficelles, moi je trouve ça intéressant de le rappeler. On a beau ne pas regarder les informations, on peut en avoir l'intuition.
Moi,
Hein?
c'est plus qu'une
Non,
intuition.
vous
Hein.
ne...
C'est
Oui.
clair que y a une manière de faire fonctionner alors le monde, notre monde, et encore, c'est peut-être pas très différent partout. Je pense que c'est partout dans le monde pareil, mais avec cette primauté donnée à la croissance.
Tout à fait.
Qui est un problème, vers une croissance qui nous amène dans une situation ingérable.
Renaud, j'aimerais vous poser une question d'un autre angle, et là c'est différent, c'est un autre parti pris que j'ai entendu, c'est-à-dire aussi ces crises-là, en tout cas la Covid qui nous touche tous, est-ce que ça démontre aussi une fragilité des populations due à la malnutrition croissante? Et qui fait qu'on n'arrive plus à se défendre et même nous, en pays privilégié, on devient fragile. Est-ce que c'est une position?
On est fragile, mais c'est pas une histoire de. Enfin, bon, il y a quand même l'obésité est un facteur de risque. Mais la fragilité est beaucoup plus sociétale. Nos sociétés sont fragiles. Tous les jours, je regarde cette espèce d'immense ville qui est là en face. Et c'est quand même un vrai problème que de maintenir en fonctionnement une ville comme ça. Et si on se trouvait dans une situation plus critique, comment on fait? Évidemment, tout tient à un approvisionnement quotidien
La
qui
nourriture,
est
l'eau,
énorme,
l'électricité.
voilà, eau, nourriture, tout tient à une confiance
Dans le système, pour
dans le
l'instant,
système. Il faut
que les
un
gens.
minimum de confiance parce que y compris bancaire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'un billet de banque, c'est qu'un bout de papier. On travaille pour des chiffres sur des comptes, pour des billets de banque, des choses comme ça.
Qu'on touche plus,
Mais
pratiquement.
voilà,
Et puis même, même, même de toute façon,
mais
c'est que
c'est
du
qu'un bout de
papier.
papier. C'est parce que je fais
C'est que du
confiance,
papier.
c'est que finalement, je fais quelque chose, on me donne des bouts de papier, et je sais qu'avec ces bouts de papier, parce que tout le monde se fait confiance au système, alors on est capable d'échanger, de si j'ai pas fait un travail, qu'un autre va le faire pour moi, etc. Parce que je ne suis pas du tout autonome, on est complètement dépendant, on est devenu terriblement dépendants les uns des autres. Et s'il fallait se retrouver à produire notre propre nourriture, nous, Parisiens, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, on ne sait plus vivre les uns sans les autres. Et en même temps, de toute façon, les survivalistes, c'est bien gentil, mais ça n'est pas une solution. Donc, il faut que cette société, à la fois, reste construite, et qu'elles se déconstruisent tranquillement, mais on ne peut pas rester aussi, on ne peut pas rester à 8 milliards de personnes, 9, 10, etc. On utilise toutes les ressources de la Terre. Bon, mon métier, c'est parasitologie, où je travaille aussi sur les moisissures. L'image d'une terre comme une orange qui serait en train d'être moisie, que les moisissures, c'est nous, on sait qu'à la fin, la moisissure finit par être en difficulté. Il y a quelque chose, je reviens, ce truc disant faut qu'on aille vers la croissance, n'a juste pas de sens. Faut qu'on organise effectivement une autre manière de vivre.
Donc là, par rapport à au bout d'un moment, vous avez 60 ans, hein, je crois que vous l'avez dit. Moi j'en ai 55. Au bout d'un moment, on va plus pouvoir aller se rendre sur place et faire, comment dire, nos actions. Est-ce que c'est on pourrait se poser et commencer à réfléchir et à donner des suggestions pour que ça continue de marcher en fait, mais pas dans le même sens qu'avant. Parce que est-ce qu'on a commencé à dessiner des solutions?
Nous, on vient d'être grands-parents tous les deux.
Ouais, en
Donc, on
plus.
a une petite fille qui est née le 8 février, donc 2 mois et demi, oui. Et elle peut vivre 80 ou voire 100 ans.
Ouais.
Donc, elle devrait normalement voir le 22e siècle. Eh bien, c'est juste une période qu'on ne peut même pas
C'est
imaginer.
clair. Alors,
On ne peut pas l'imaginer, on ne sait
il n'y
pas
a
ce
plus
que
d'autoroute.
sera. On ne sait pas ce que sera le 22e siècle. Et pourtant, des personnes existent, et j'en ai vu une, puis mon petit neveu aussi, qui a Léon, qui a
Il a
même pas un
ses,
an, enfin, ouais.
il a, oui, c'est ça, il a
Voilà.
6 mois.
Donc, il pourrait tout à fait vivre ça. On n'est pas. Donc, on va les voir grandir, et puis on sait qu'on les envoie dans un monde qu'on ne peut même pas se figurer. Et en particulier, on sait que ça ne peut pas être celui-là. Ce que je vois, c'est qu'ils sont pas tellement armés pour. Nos dirigeants sont
Oui,
pas armés
c'est
pour
ça que je posais
comprendre
comme
ça.
question.
Ils n'ont pas les.
Ils n'ont pas été structurés, ni préparés, ni. Voilà.
Quand on voit qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce que c'est qu'une donnée scientifique, qui se disent on peut dessiner, faire un gribouillis sur des courbes, évidemment. Mais là, on se dit, mais ces gens-là, j'en voudrais même pas comme élèves. Ben oui, c'est quelque part, on est un peu difficile, on trie. Enfin, quelqu'un qui fait ça, il dit, mais écoute, vas-y, va t'amuser ailleurs, mais non, mais. Et en fait, c'est une personne qui décide.
Ah bon?
Ben oui, on a un président, il décide.
Non, mais le président décide.
Moi, j'ai toujours mis ça en cause dans le sens où c'est une parole.
Mais le fin janvier,
c'est aussi subjectif
fin
que
janvier,
ça.
Le tout à fait. Fin janvier, le conseil scientifique dit il faut faire quelque chose, fermer les écoles pendant 4 semaines, confiner au mois de février. On le dit, tout le monde l'a dit, il faut faire comme ça. Et une personne, une seule, dit non.
Non, ça s'est passé comme ça.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, moi, je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet. Ça ne sera jamais épuisé. Hein. Mais ce soir, je pense que c'est... on a fait un peu le tour de la question.
C'est ça. On continue.
Aller à la rencontre des héros des temps modernes pour nous donner des forces et le courage d'aller au-delà de notre vie, de notre quotidien, de les emmener plus haut et de les embellir. C'est l'intention de ce podcast, ce que fait le thé, faire de l'espace en soi avec une bonne tasse de thé et s'inspirer de ces héros.